Thank you. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de l'État de splendeur sur la radio web EDS. En ce jeudi 15 juillet 2010, 18h30. Il fait toujours beau et chaud à Québec, à peu près 30-32 degrés. Comme il a fait à peu près tout le long de la dernière semaine, vraiment en crise de chaleur. Et puis le festival d'été bat son plein, va se terminer ce dimanche. Et puis il y a eu des performances remarquées, d'ailleurs, de Arcade Fire, qui est digne de mention. Et puis donc, nous sommes en direct de Québec au studio du Coteau. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets pour vous. On a préparé différents sujets, notamment le château disparu du golfe du Saint-Laurent. On va parler aussi du trésor retrouvé dans le bas du fleuve. De quoi il s'agit, vous le saurez dans peu de temps. Et on va aussi mentionner une histoire africaine contemporaine, les inventions du maître Yoda. Curieuse histoire, celle-là. Et enfin, la contrefaçon et le vote du dollar. Qu'est-ce que ça représente? Donc, vous êtes pour la prochaine heure, heure et demie, en compagnie de Patrick Assikian à l'émission État de splendeur avec Pierre Harvey à la mise en onde. Donc, nous avons pour la première fois un record d'auditeurs en direct. On a trois auditeurs qui sont à l'écoute pour l'instant, une nette progression par rapport au précédent record de deux. Et pour tout de suite, on va aller en break musical. Au retour, on va commencer avec le château disparu du golfe du Saint-Laurent. Donc, pour initier le break musical, on a choisi un groupe scandinave. C'est un groupe tout récent là, qui vient de percer, avec une chanson qui s'appelle « When I Grow Up », qui est assez connue d'ailleurs. C'est le groupe Fever Ray. Alors, on y va tout de suite avec Fever Ray et « When I Grow Up ».
I want
C'était donc Fever Ray avec la pièce When I Grow Up, un groupe scandinave qui a sorti cette chanson-là de manière assez récente. Et puis, pour maintenant, comme je vous disais précédemment, on va parler de l'histoire du château disparu du golfe du Saint-Laurent. Alors, quand on parle du Saint-Laurent, on parle souvent des... on pense au fleuve, au Beluga, au Tadoussac, au golfe du Saint-Laurent, au Foot-Bassin, au Flétan, mais jamais, on n'a jamais l'idée d'un château en tête, parce que les châteaux, c'est plus du domaine de l'Europe et des anciens continents. Et puis, pourtant, il existe quelque part, caché dans les étagères poussiéreuses de la mémoire, parmi des récits de fantômes gaspésiens, de vieux loups marins, il y a une brève histoire, pourtant bien réelle, d'un château. Alors, on sait qu'à travers le Québec et à travers l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de manoirs récents, là, des maisons assez immense et raffiné, mais c'est pas tout à fait des châteaux, ça. On peut dire que c'est des manoirs, mais un château a toujours une certaine esthétique un petit peu plus recherchée, particulière, qui ressort parmi les autres. Et puis, on peut en retrouver un. Si on va dans un lieu peu fréquenté du Québec, qui est au milieu du Saint-Laurent, qui est une île, en fait, qui a été achetée et colonisée en 1895 par un industriel chocolatier. Histoire bizarre. Un certain Henri Meynier. Il a donc acheté l'île d'Anticosti. Et puis, c'est encore aujourd'hui un paradis encore quasi vierge, là. On fait un peu d'exploitation forestière, beaucoup de chasse, un peu de tourisme, mais c'est relativement peu parcouru, c'est parce que c'est quand même hors des sentiers battus, c'est en plein milieu du golfe du Saint-Laurent, c'est relativement éloigné. Mais pourtant, c'est vraiment paradisiaque aujourd'hui. Et dans la même lignée, Henri Meynier voulait en faire un paradis de chasse pour l'élite internationale. Alors, il a commencé à transplanter des cerfs de Virginie et puis des bisons. Il les a mis un peu partout dans l'île. Et puis, les bisons n'ont pas vraiment survécu, étant donné que c'était une zone forestière très, 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 très dense. Et puis, c'est pas un territoire qui convient aux bisons. Mais les cerfs, eux, ils ont non seulement survécu, mais... Ils ont rentré en compétition avec les cerfs qui sont natifs de l'île d'Anticosti. Et puis aujourd'hui, des cerfs qui ont été transplantés, maintenant il y en a 130 000 à peu près sur l'île. Donc, c'est ça. Et puis finalement, il a comme fondé une seigneurie. Il voulait que le domaine de l'île d'Orléans soit comme une seigneurie autosuffisante. Et elle l'a été pendant quelques années. En 1900, il a construit une ville qui s'appelait Port-Meynier, qui à son apogée a eu à peu près 800 habitants. Et puis, il y avait un quai de 1000 mètres. Il y avait quand même plusieurs bâtiments, une église, des boutiques, etc. Et puis, la pièce de résistance de M. Meynier, ça a été de se construire un édifice complètement différent des édifices conventionnels de l'époque. Il a fait ériger ce qui a été connu sous le terme le château Meynier. Le château Meynier... était sur un lieu un peu surélevé de l'île, et puis il y avait plusieurs étages, et puis une cour, et puis il y avait plus de 30 pièces dans ce château-là. Et puis ça comportait des vitraux en forme de fleurs de lys un peu partout. Il y avait de la porcelaine incrustée, des carreaux, des boiseries ornementées. Et puis c'était une structure 100% en bois, de style nordique, un peu comme on peut retrouver en Scandinavie, qu'on retrouve... pas beaucoup ici, plus précisément de style norvégien. Et puis c'est un édifice exquis. Si c'était une émission de la télévision EDS, chose qui va devenir possible à partir du mois de décembre, on montrerait des photos de ce château qui est vraiment exquis. Là. C'est un château nordique en plein milieu de l'île d'Anticosti, ben, plus près de la rive quand même, qui s'appelait le château Meynier et dont presque personne connaît encore l'existence parce que, malheureusement, après la Première Guerre mondiale, il y a eu comme un déclin un déclin du chocolat. Et puis à cause de ça, les héritiers Meynier, ils ont été obligés de vendre toute la concession de l'île à une compagnie qui s'occupait de l'exploitation forestière de l'île. Et par conséquent, ils avaient comme plus d'argent pour entretenir le château, qui avait quand même plusieurs pièces, etc. Et c'était vraiment coûteux de l'entretenir. Donc, Ça a été tout un litige, mais au paroxysme de cette triste histoire, en 1954, les villageois se sont rassemblés. Et même si l'édifice contenait encore des meubles extravagants et toutes sortes d'ornementations vraiment uniques au Québec, ils ont incendié l'édifice volontairement, avec la permission des autorités en place, et ils ont complètement rasé le château Meynier des flammes. Il y a même quelques photos qui sont assez rares, pas trouvables sur Internet, du château Meynier en feu, en train d'être rasé. Et donc aujourd'hui, il ne reste que des photos de ce château Meynier. C'est vraiment une histoire triste, mais c'est quand même intéressant de savoir que ce château a déjà existé en plein milieu de l'île d'Anticosti, qui est un lieu des plus sauvages. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une trace, mais là-bas, autrefois, s'érigeait un château. Donc, pour l'instant, on va aller en break musical, en pause musicale, tout de suite avec Just Like Honey de The Jesus and Mary Chain. Eh bien, c'était Just Like Honey. Désolé pour l'interruption brusque de cette chanson. C'était The Jesus and Mary Chain, un groupe écossais des années 80. Et puis, on a pu voir ce release sur la trame sonore de Lost in Translation. Là, le deuxième sujet de la soirée, c'est une histoire un peu particulière. C'est un autre trésor qui a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent. Mais par contre, c'est un trésor retrouvé. C'est un individu nommé André Sénéchal, un habitant du bas du fleuve, qui, dans la quarantaine avancée, il y a de ça maintenant peu près une quinzaine d'années et, désolé de son destin, marchait tranquillement en fumant la pipe un soir sur la plage. Et puis, le regard à gaz s'arrêta sur une masse qui était jonchée sur le sol. Et puis, il s'est demandé quoi cette affaire-là. Et il croyait avoir retrouvé une sorte de fossile, hein, parce que c'était en fait, c'est comme une carcasse, ou une partie de carcasse avec une armure d'os. Et puis, évidemment, il l'a amené chez lui. Et puis, il l'a examiné, étant donné qu'il trouvait ça un peu curieux. Et puis, il a fait des vérifications auprès des pêcheurs dans le coin, parce qu'il a bien vu que c'était quelque chose de marin. Lui se demandait si c'était pas quelque chose de préhistorique, là. Et puis, c'est ça, il a demandé aux pêcheurs du coin, et puis il s'est rendu compte que c'était en fait une carcasse d'esturgeon noir, qui est un poisson quasi préhistorique, on pourrait dire, qui est là depuis des siècles et des siècles dans nos eaux. Et puis, cet animal-là a, à l'extérieur, une espèce d'armure, c'est assez exceptionnel, une armure osseuse extérieure. C'est pas des arêtes, c'est vraiment une armure externe qui donne une allure assez barbare là et vraiment préhistorique. Et puis les pêcheurs qui font son exploitation se servent de la chair, mais pas de l'extérieur. Alors, quand ils prennent un esturgeon, ils enlèvent systématiquement cette armure extérieure et ils la rejettent dans l'eau. Et puis lui, en marchant sur la plage, il a tout simplement trouvé une de ces carcasses qui avait été rejetée à l'eau, ces armures-là, par un pêcheur, et puis qui, par le travail des vagues, s'est ramassée sur la plage. Alors, il a commencé à trouver que cette substance-là était de plus en plus intéressante, et puis il s'est rendu compte, puisque c'était déjà un bricoleur, que c'est une matière qui sculptait à merveille. Et puis, il a commencé à fabriquer des objets quand même d'une relative beauté, là, assez poussée. Et puis, à un point tel qu'à un moment donné, il y a un chercheur de l'Université Laval qui s'en est intéressé, qui s'y est intéressé. Il a donc pris cette substance-là, puis il a fait différentes analyses chimiques dessus. Et puis, pour en faire une histoire courte, là, sans résumer toute la substance de l'étude, c'est arrivé à la conclusion que cette espèce de substance-là d'armure externe de l'esturgeon du Saint-Laurent, ça a une composition chimique identique à l'ivoire d'éléphant. Ce qui voulait dire que bon nombre de succès d'années, si on veut, d'ivoire d'éléphant qu'on utilise pour faire différents objets, ont une texture qui ressemble à l'ivoire, mais pas à un point tel, pas au même point que l'ivoire de mer, que l'ivoire de ces esturgeons-là. Donc, ces petites plaquettes extérieures de l'armoire de l'esturgeon noir avaient la même composition chimique que l'ivoire d'éléphant. Alors ça voulait dire que les noix de palmier avec lesquelles on sert un extrait de ça pour faire des boules de billard et toutes ces espèces de produits-là pouvaient aller se rhabiller parce qu'on a trouvé le remplaçant, le plus noble remplaçant à l'ivoire d'éléphant. Et puis, c'est quand même une ressource qui est, bon, on va pas dire inépuisable, mais qui une ressource qui est beaucoup moins rare que l'ivoire d'éléphant. Alors, ça, c'était une belle découverte pour lui. Et puis, de fil en aiguille, son produit est devenu de plus en plus connu. Très peu à l'intérieur du Québec, mais quand même dans certains cercles, il a commencé à sculpter ça puis faire des objets, et puis ça s'est commercialisé sous le nom de l'ivoire de mer. Et puis maintenant, il est en train de faire des recherches avec toujours le même chercheur de l'Université de Laval pour trouver des moyens de faire des amalgames de cette substance-là pour pouvoir faire des objets plus vastes d'ivoire de mer. Alors, ils essaient de trouver quelque chose pour faire de sorte que l'ivoire puisse se relier ensemble sans être dénaturé, ce qui est tout un défi. Donc, il y a plein de recherches là-dessus et il y a tout un potentiel là-dedans dont on va sûrement entendre parler dans les prochaines années. Alors, c'est un chapeau à André Sénéchal, habitant du bas du fleuve, qui habite maintenant Montmagny et puis qui a inventé ou découvert plutôt l'ivoire de mer. C'est assez difficile à en trouver, malheureusement, encore. C'était vraiment à l'état expérimental. Mais on peut retrouver chaque année M. Sénéchal en personne à Québec, au marché de Noël, au marché du Vieux-Port, ce qui est dans le secteur du Vieux-Port à Québec, là. À chaque Noël, il y a le marché public du Vieux-Port qui fait des expositions avec différents producteurs. Et puis on le retrouve là. Sinon, on le retrouve à l'occasion dans des boutiques spécialisées comme l'atelier de cuir Saint-Jean-Baptiste. Mais étant donné que la production est très limitée, on ne le retrouve pas de manière assez répandue. Mais on va de manière certaine entendre parler de plus en plus. Je le souhaite. Je souhaite à André Sénéchal. On va entendre de plus en plus parler de l'ivoire de mer. Donc, ça ressemble un peu à une autre histoire qui existe dans le nord du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez l'achigan, qui est c'est un poisson assez répandu dans nos eaux. On en a dans les Basses-Laurentides, un peu partout. Mais sauf qu'il y a, y a une, un cousin de l'achigan qui habite un peu plus au nord, dans les rivières, on va dire, au nord du 45e parallèle, etc. Je ne sais pas si c'est une délimitation précise, mais dans le nord, il existe une variante de l'achigan commun qui s'appelle le nord-achigan. C'est pas son nom scientifique, mais un terme populaire. Et le nord-achigan, ce qu'il y a de particulier, c'est que lui, il faut qu'il remonte des rivières, mais qui sont beaucoup plus à pic. Parce qu'au nord, on a bon nombre de rivières qui sont à fort dénivellation. C'est un haut degré de pente. Donc, le courant est très, 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 très fort. Et puis, ces achigans-là, il faut qu'ils remontent, dans bon nombre de cas, ces rivières-là pour aller à des zones stratégiques. Et à cause de ça, il faut qu'ils puissent avoir un poids qui s'oppose à ce courant-là. Ce qui n'est pas le cas des achigans normaux. Ils s'envoleraient littéralement dans certains cas avec le courant. Donc, pour contrer cet effet-là, les nord-achigans ont en plein milieu de leur tête, dans la crête du début, juste au-dessus de leur bouche, au niveau de ce qu'on pourrait appeler un nez du poisson, ils ont une pièce d'os qui a vraisemblablement la même composition chimique, ou presque, que celle de l'ivoire de mer. C'est une pièce osseuse assez brillante qui est en fait un poids pour contrebalancer l'effet du courant. Donc, ça fait de sorte que la tête de l'achigan reste toujours baissée et peut faire face au courant et avancer quand même. Et ces petites pièces-là du nord-achigan sont collectionnées et il y a différents objets artisanaux à valeur symbolique qui sont faits avec les autochtones et même avec les non-autochtones qui font des appâts de pêche, etc., d'autres objets assez variés avec ça. Mais cette petite pièce du nord-achigan est quand même assez précieuse et c'est assez unique comme particularité, ça. Donc, je voulais simplement le mentionner parce que c'est assez relié à l'ivoire de mer. Donc, le nord-achigan, ça aussi, c'est une histoire dont il faudrait bien se souvenir. On va aller tout de suite dans une pause musicale, une pièce qui est un peu dans la même mouvance qu'était André Sénéchal le jour où il se promenait sur la plage pour découvrir l'ivoire de mer. C'est un groupe canadien qui s'appelle The Great Lake Swimmers et le nom de la pièce, c'est Still.
Yells. I'm still cry in the night, lonesome and high. I'm still tuned to an instrument of greater and unknown design. I'm still looking for direction, some kind of sign. I'm still tuning myself to the great key. I'm still.
And cut.
C'était la pièce Still du groupe canadien, en fait torontois, je crois, les Great Lake Swimmers. Donc, on va poursuivre avec une autre histoire qui est un peu comme la précédente, soit celle de quelqu'un qui, en se promenant, fait la découverte inespérée d'un trésor à travers quelque chose qui, en fait, est un rébus. Mais il s'agit d'une histoire africaine. Donc, on va faire un parallèle à une découverte qui se fait ici avec une histoire qui se passe en Afrique. Il s'agit de l'histoire de Maître Yoda. Et c'est un autre qui a trouvé quelque chose par terre au Burkina Faso. Maître Yoda, c'est en fait un individu nommé Philippe Yoda. Philippe Yoda a étudié en chimie, en pétrochimie, je crois, et puis a trouvé un brevet pour une idée fort intéressante qu'il a découvert en marchant dans la savane ou autour de villages où il s'est rendu compte qu'il y avait la présence de bon nombre de sacs plastiques partout. Mais partout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes services de collecte des déchets comme nous. Donc, les sacs en plastique, ils se ramassent partout, à un point tel qu'on fait référence à ce phénomène sous le terme de le péril plastique. Et puis le péril plastique, ça se traduit par des sacs plastiques qui sont dans tous les buissons, partout, sur toutes les branches de tous les buissons, à un point tel que ça inhibe la croissance du buisson même. Et quand ça rentre dans des terres agriculturelles, ça inhibe la culture, et puis la culture de produits comestibles, ce qui nuit aux villageois, et puis ça se rentre dans les racines. Même que dans le bétail, quand les chèvres mangent des sacs plastiques, ça peut tordre leurs boyaux, et les chèvres finissent par mourir, mais là, de manière systématique, à un point tel que c'est vraiment un péril plastique. Alors, il s'est posé la question, et s'est dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Et puis, il s'est dit qu'il pourrait les ramasser, mais plus que les ramasser, il a décidé d'en faire quelque chose de constructif avec. Alors, dans son village ou dans les villages environnants, il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas d'emploi et puis qui avaient du temps à donner à ce type d'initiative. Et donc, il rassemblait des femmes du village qui ont rassemblé, et puis tout le monde, pas seulement des femmes, ils ont ramassé les sacs plastiques qui sont dans les zones environnantes. Et puis, ces sacs plastiques, une fois ramassés, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres sortes de plastiques dans la nature et on a fini par ramasser toutes les sortes de plastiques possibles. Alors, il y a deux modes de production principaux qui ont été développés par Maître Yoda. La première constitue surtout un recyclage de sacs plastiques. Et puis, c'est les femmes qui en font des fines lanières, qui le traitent chimiquement pour le nettoyer et qui le tressent d'une façon précise pour faire des sacoches, des mallettes, mais aussi des cordes indestructibles et des tapis de toutes sortes. Et de plusieurs différentes sortes. La deuxième production, c'est la production la plus importante. C'est que il va prendre toutes les sortes de plastiques possibles. Et puis, normalement, nous, quand on recycle ici en Amérique du Nord, les plastiques, ils sont classés par la classe 1, 2, 3, 4, 5. On peut le voir à côté du logo, du symbole du recyclage, en arrière des plastiques qu'on met dans le bac à recyclage. Mais lui a trouvé, il a fait breveter une méthode pour mettre toutes les différentes sortes de plastiques ensemble. Donc, tous les polymères de plastique peuvent être comme amalgamés ensemble selon son procédé. Son procédé, évidemment, est secret. Sauf que ce procédé-là Ben, il est quand même assez comme rustique et pittoresque, là. Il y a une espèce de marmite dans laquelle il fait bouillir tous ces différents plastiques avec un masque et puis un ventilateur. Ça doit être assez difficile là, au niveau de la santé de travailler là-dedans. Et une fois qu'il a fait son espèce de mélange chimique spécial, il va enfourner des briques dans un moule pour les faire cuire. Et puis ça fait des briques et puis d'autres sortes d'objets aussi, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est les briques et les dallages qu'il peut faire. Il fait des briques qui sont d'une solidité incroyable, et puis il peut même faire des petits édifices avec. Donc, avec ça, on peut faire des lampes, on peut faire des sentiers, on peut paver des routes avec ce type de briques-là quand elles sont faites en dalles. On fait des panneaux de signalisation qui autrefois étaient tout le temps volés parce qu'ils étaient en métal, mais maintenant, des panneaux de signalisation avec ce produits-là sont parfaitement performants. Et puis, ça finit par faire des bâtiments durables. Hein. Et puis, il a gagné 5 médailles pour ses inventions. Et puis, c'est quand même assez prometteur, cette histoire-là. Donc, j'ai hâte d'entendre parler de plus en plus de cette idée-là. Et je crois que cette idée-là a même été reprise par une compagnie qui est du Danemark. Et puis, cette compagnie-là fait une sorte d'amalgamage de plastique comme ça. Je ne sais pas si c'est toutes les sortes de polymères de plastique et si c'est du plastique qui provient de recyclage, mais je crois que ça provient de recyclage. Et puis, ils font des murs directement, pas seulement des briques, mais eux, ils ont une grande machinerie qui font de sorte qu'ils peuvent amalgamer ensemble des prismes rectangulaires de à peu près 2-3 mètres. 2-3 mètres par 75 cm, on va dire. Et puis, ils construisent des maisons avec ça. Et puis, paraît-il qu'ils sont capables de construire une maison parfaitement forte et stable pour 6 000 $ environ. Donc, ça aussi, c'est curieux de voir dans quelle direction ça va nous amener. Si on est capable de... Si on est à veille de découvrir des nouvelles méthodes moins chères et puis plus productives pour faire des maisons, mais pas des maisons cheap, mais des maisons qui sont durables et qui vont probablement être les maisons du futur. Je suis sûr qu'on va trouver des moyens de faire des maisons qui ont quand même une certaine esthétique recherchée, qui mêle à ça une qualité dans la construction. Je le souhaite, et puis ça serait une bonne idée. Bien, tout a l'air d'avancer dans cette direction-là, et puis à une prochaine émission, je vous citerai le nom de la compagnie du Danemark en question. Mais sinon, c'était tout ça pour l'histoire, la très heureuse histoire de Maître Yoda, Philippe Yoda, du Burkina Faso. Et cette histoire-là est d'ailleurs pas encore terminée. On va y aller tout de suite pour une pièce musicale. Une pièce musicale allemande, mais qui est d'un groupe franco-allemand, c'est Stéréo Total, avec une pièce d'une Française, mais qui aime bien chanter en allemand. On va y aller avec Stéréo Total et Sean von Hinden.
Vielleicht besser sogar. Vitali. von dir oder eine Postkarte. Geh, es ist vorbei. Goodbye. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Wenn du stehst, wenn du stehst, wenn du stehst, wenn du stehst bei mir bist. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Jeden Tag, jede Nacht, jeden Tag, jede Nacht bist du bei mir.
On vient juste d'écouter Stéréo Total avec Sean Von Hinton et puis un groupe. Donc, comme dernier sujet de la journée, on va parler d'un sujet qui s'appelle la contrefaçon et puis voter avec son dollar. Qu'est-ce que ça représente pour nous? En fait, la contrefaçon, c'est un phénomène assez répandu. On en a entendu parler avec les phénomènes, les fameux T-shirt Lacoste et les vêtements Lacoste. Il y avait des inspecteurs qui parcouraient les rues du monde à la recherche de faux Lacoste dans les boutiques. Si le crocodile avait la bouche trop ouverte ou trop petite, c'était symbole que le Lacoste était un faux et puis il remontait jusqu'à la source. Et puis, il y avait eu tout un litige à propos de ça, il fut un certain temps. Mais maintenant, ce phénomène a tendance à se répandre. Là, on le voit avec la Chine et puis d'autres pays producteurs qui rentrent dans la game, excusez-moi de l'anglicisme. Et puis la Chine a tendance à copier les produits européens de renom pour en faire des versions qui coûtent vraiment, vraiment très peu cher. On voit le phénomène avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des couteaux Laguiole, les Laguiole qui sont... Qui viennent d'une région précise en France et puis qui sont fabriqués là depuis des centaines d'années, depuis le 17e siècle. Et puis, malheureusement, les couteaux Laguiole, ça n'a jamais été une marque déposée. Donc, il y a plusieurs couteliers dans la région qui en font, à Laguiole même, mais aussi dans les villages voisins. Mais il y a aussi des producteurs pakistanais et puis des producteurs chinois qui font des Laguiole. Et puis un Laguiole, c'est fait avec des ouvriers qui ont un certain savoir-faire, avec le meilleur métal possible, qui est chauffé à une température précise, et puis la corne est travaillée à la main, et puis bon, il y a tout un certain savoir-faire qui rentre en ligne de compte, et puis les produits chinois arrivent avec de la main-d'œuvre qui est très peu payée, évidemment, qui coûte très peu cher, et puis qui sont capables de mettre des Laguiole qui, sur le marché, en bout de ligne, dans un commerce au détail, ça finit par coûter 20 euros à peu près. Ce qui est dérisoire par rapport à ce que coûte normalement un Laguiole qui serait... Pour un Laguiole qui coûte à peu près 20 euros, là, pour un Laguiole qui est pakistanais ou chinois, ben, c'est l'équivalent. Pour un Laguiole authentique, ce serait à peu près 80 euros là, ou 100 euros même. Donc, c'est un triste développement parce que ces couteaux-là qui apparaissent, ils n'ont pas du tout la même qualité. Et le problème, c'est que bon nombre de personnes, même on peut le voir sur un reportage récemment qui a été fait à la foire agriculturelle française, à Paris même, et il y a bon nombre d'exposants qui vendaient des Laguiole pakistanais et chinois. Et puis les consommateurs, ils savent pas. Ils pensent qu'ils achètent des Laguiole authentiques qui viennent de la région précise d'origine quand c'est des Laguiole pakistanais et puis les chinois. Et ce phénomène-là ne nous est pas étranger. On en a entendu parler avec le site de glace. Le site de glace, bon, il y a eu un certain engouement pour le vin de glace. Le vin de glace récemment qui, à cause des Chinois, et puis à Hong Kong, on a tendance à aimer les produits de renom internationaux. Tout comme nous, on aime les produits de renom qui viennent d'extérieur aussi. Et ils ont une dent sucrée, si on veut. Et puis, les produits comme le vin de glace, on la cote en Asie. Et puis, il y a eu un engouement pour les vins de glace qui viennent du Niagara et tout ça. On fait aussi certains vins de glace au Québec, notamment au vignoble de l'Orpailleur. Mais on s'est démarqué plutôt dans la découverte d'un produit en 1988, c'est-à-dire le cidre de glace. Et puis, le site de glace, lui, je ne ferai pas un exposé sur le site de glace lui-même, mais c'est une invention québécoise qui a été faite dans le sud-ouest du Québec à Hemingford en 1988. Et puis, c'est le même procédé que le vin de glace, mais fait avec la pomme. Le froid concentre les sucres et les principes qui font la saveur de la pomme sont concentrés par le froid. L'eau est enlevée et puis ça fait un cidre qui est particulièrement bon et puis qui vieillit très bien. Malheureusement, en Chine, ces produits-là, on peut retrouver des produits qui sont étiquetés comme étant du cidre de glace et du vin de glace, mais dans le fond, c'est du vin et puis ils ajoutent du sucre dedans, tout simplement. C'est carrément de la frime, là. Et c'est parce qu'il n'y a pas de législation qui entoure ça dans ces pays-là. Et puis, un producteur comme la face cachée de la pomme, qui est le premier producteur de cidre de glace au Québec, qui n'a pas vraiment les moyens pour aller se représenter dans un tribunal chinois, et puis c'est absolument impossible. Donc, malheureusement, ça cause un certain problème. Et puis la solution pour ça, justement, c'est voter avec son dollar. Parce que, malheureusement, ça a l'air que c'est un processus assez fastidieux d'amener une réglementation qui encadre le consommateur pour qu'il puisse avoir accès aux produits authentiques qu'il recherche. Donc, la meilleure façon pour ça, c'est au consommateur de s'éclairer et puis de voter avec son dollar, c'est-à-dire de s'allier stratégiquement avec le produit authentique en question et puis de, le plus possible, acheter d'un producteur authentique quand on recherche un produit qui a une certaine qualité, évidemment, pas si on va faire son épicerie à tous les jours. De la même façon, ben, on trouve le même phénomène chez les fromages. Bon nombre de fromages sont mis en marché avec un nom qui peut sembler comme si c'est un fermier qui s'occupe de ses vaches et puis qui leur parle quotidiennement, mais c'est pas tout le temps le cas. Et puis, une façon de se parer contre ça, c'est de s'assurer que c'est un fromage fermier ou un fromage qui a quand même un caractère artisanal, qui est une petite ferme. Les fromages fermiers sont des fromages qui sont faits avec le lait d'un seul troupeau qui habite sur la ferme où est fait le fromage. En contraste avec des fromages qui sont faits avec le lait qui provient de n'importe où, qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais les fromages fermiers, eux, font un produit qui vraiment fait des efforts pour se démarquer de par sa typicité unique. Là. Fait que c'est le fun de les encourager parce qu'ils font un travail vraiment, vraiment assidu. Et puis, qui est dans un secteur qui est vraiment à eux. Là. Et puis, on a entendu parler de la même dynamique de manière plus récente. Il y a des produits qui sont en fait des produits exotiques, mais qu'on commence à faire ici, comme par exemple des djembés. Le djembé, il y a eu un certain engouement pour les percussions exotiques récemment dans la musique et tout ça. Et puis donc, la vente de ces instruments-là a quand même augmenté de manière fulgurante dans les dernières années en Amérique du Nord, dans le monde occidental en fait. Et puis, il y a un producteur au Saguenay qui a décidé de faire des djembés, mais avec une ressource qu'il a dans sa région en profusion, c'est-à-dire des résidus de coupes forestières. Lui, il se promène dans des zones où il y a eu des coupes forestières et puis il y a souvent des immenses troncs d'arbres qui sont laissés sur place. Et puis, c'est des sous-produits de la coupe forestière et c'est des sous-produits qui sont laissés sur place pour pourrir. Alors, lui, dès qu'il y a une coupe fraîche, va sur place et puis se promène jusqu'à ce qu'il trouve le tronc parfait qui a les propriétés acoustiques recherchées. Et puis, va chercher ce tronc-là, même s'il se trouve dans un ravin, va descendre et va le chercher. Et le ramène, et puis les travaille individuellement pour faire un instrument de percussion africaine qui s'appelle le djembé, mais de manière vraiment soignée. Là. Et puis fait des djembés qui sont d'une qualité excellente. On ne peut pas dire que c'est une qualité qui surpasse la qualité de ceux qui sont les originateurs de ces instruments-là. Ce serait aberrant de dire ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant une ressource d'ici et en le travaillant d'une façon soignée pour faire ressortir les forces du produit qu'il retrouve sur le terrain après une coupe forestière. Ça fait de sorte que ça fait un djembé excellent, qui n'est pas comme les djembés africains, qui a comme d'autres particularités qui peuvent être très appréciées dans un certain contexte. Et donc, il a commencé à se faire une certaine notoriété dans le domaine. Et puis, ces djembés sont vraiment reconnus comme étant des djembés fantastiquement performants. Et puis, c'est des djembés artisanaux et puis qui ont quand même un certain cachet. C'est pas des djembés faits à la chaîne. Et puis, lui, il vend ses djembés à un certain prix, mais malheureusement, s'il voulait avoir un salaire réaliste par rapport au nombre d'heures qu'il met dans chaque djembé, il faudrait qu'il vende son djembé trois fois plus cher qu'un djembé qu'on trouve dans une boutique à Québec ou à Montréal ou à Sherbrooke. Donc, malheureusement, il y a cette idée de marque qu'il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il trouve un moyen de faire de sorte que les gens reconnaissent que son tam-tam est particulièrement rempli de toutes sortes de qualités. Et puis, de s'en faire une marque pour que les gens sachent que « Ah, ça, c'est un djembé de telle compagnie. » Puis, on peut dépenser un peu plus parce qu'on sait qu'on va avoir de la qualité. Parce qu'en fait, le mérite d'une marque et sa reconnaissance doit être mandaté par sa qualité singulière. Un peu comme les bleuets du lac Mistassini. On sait qu'il y a un monastère à Mistassini, qui est un monastère qui fabrique à chaque année une certaine production qui a été copiée depuis, c'est les bleuets au chocolat. Il y a bon nombre de personnes qui font les bleuets au chocolat, mais il y en a qui ne jurent que par les bleuets du lac Mistassini. Et c'est compréhensible parce qu'ils utilisent un chocolat spécial et puis des bleuets qui sont frais et craquants quand ils viennent juste de sortir et c'est des bleuets sauvages. Donc c'est imbattable. Même qu'ils doivent être tellement frais qu'ils ne peuvent pas se rendre à Montréal. Donc, on en retrouve au lac Saint-Jean et puis à Québec, mais c'est tout. Ils ne vont pas plus loin que ça. À l'occasion, on en retrouve à Montréal, mais c'est quand même assez rare, là. Donc, ces bleuets-là, si c'était simplement parce que c'est des bleuets qui proviennent de Mistassini, ce ne serait pas nécessairement assez pour justifier une marque, pour que les gens payent un peu plus cher pour avoir des bleuets du lac Mistassini. Quand ils sont à Montréal, ils sont prêts à payer un peu plus cher si c'est vraiment des bleuets du monastère de Mistassini. C'est parce qu'ils ont une qualité gustative qui est vraiment là. Donc, c'est la qualité mandate le fait qu'une marque va pouvoir attirer un certain support de la part de la clientèle. Donc, tout ça pour dire que c'est très important de voter avec son dollar parce que toute chose qu'on achète va être encouragée par notre dollar et puis c'est fait dans le quotidien. Évidemment, on ne peut pas acheter bio ou acheter artisanal ou local dans tous ces achats. C'est absolument impossible, à moins d'avoir un grand budget. Mais c'est possible d'acheter une chose par-ci, une chose par-là. Et puis ça fait de sorte que ça galvanise une certaine économie qui favorise l'émergence de différentes compagnies qui actualisent la culture. Et c'est donc le sujet de l'émission État de splendeur. Ceux qui s'attachent ou qui s'attardent à travailler fort pour actualiser la culture et la rendre adaptée à aujourd'hui. Donc, pour tout de suite, on va retourner en break musical avec un artiste qui s'appelle Julian Casablancas. C'est l'ancien chanteur des Strokes. Et puis, il vient de sortir une pièce qui s'appelle Out of the Blue, qui est excellente. Donc, voici Julian Casablancas et Out of the Blue. C'était donc Julian Casablancas, l'ex-chanteur du groupe assez connu qui s'appelle les Strokes, avec la pièce Out of the Blue. Donc, c'était tout pour l'émission État de splendeur de ce jeudi 15 juillet 2010. Donc, on a parlé du château disparu du golfe du Saint-Laurent, le trésor retrouvé dans le bas du fleuve, et puis l'histoire de Maître Yoda. Il va y avoir des photos du château disparu du golfe du Saint-Laurent qui vont être ajoutées demain, vendredi, sur le site etatdusplendeur.com. Et puis, il va y avoir aussi un lien pour retrouver le producteur André Sénéchal, le producteur de l'Ivoire de mer. Donc, il va y avoir une autre émission dans un avenir assez rapproché en provenance du studio du Coteau à Québec. Ce sera samedi, le 17 juillet 2010. Et puis, il va y avoir un invité spécial et puis, comme d'habitude, plusieurs sujets croustillants et intéressants. Notamment, on va parler de l'argile du Manicouagan. De quoi s'agit-il? Et puis, c'est une entreprise qui vient d'une zone dont on pourrait très peu soupçonner l'existence d'entreprises de la sorte. Là, on pensait qu'il y avait juste l'exploitation minière dans ce coin-là, mais non, il existe autour du Manicouagan et de cette région-là une espèce de production d'argile. On va en parler samedi, ainsi que de plusieurs autres sujets. Alors, ça m'a fait plaisir. Vous avez été avec Patrick Assikian. Et puis, soyez à l'écoute samedi, après-demain, pour une autre émission d'État de splendeur. Et on va se laisser avec une pièce de Marat Tremblay. Marat Tremblay, qui était surtout connu pour un rock... une musique qu'on pourrait caractériser de surtout rock. Et puis, elle a sorti une pièce qui a un certain grain sonore que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de la pièce qui s'appelle « Le printemps des amants » que je vais mettre tout de suite en guise de chanson de sortie. Donc, voici tout de suite sur la radio EDS « Marat Tremblay et le printemps des amants ». Bonne soirée!
Tout le monde.
Chemin.